Chapitre 6. La voix d'Elde. 1. Vers 2 heures de l'après-midi, ce même jour, ils se retrouvèrent installés tous les 10 autour de ce que Rallant appelait un dîner de rancher. Pendant les corvées du matin, on regarde l'avenir avec amour, dit-il plus tard à ses amis. Pendant celle du soir, on regarde le passé avec nostalgie. Eddie pensa qu'il plaisantait, mais avec Rallant, impossible de savoir vraiment. Le peu d'humour qui lui restait avait atteint le point de dessiccation. Ce n'était pas le meilleur repas qu'Eddie eût fait, car le banquet organisé par les habitants de River Crossing conservait la place d'honneur, mais après des semaines passées dans les bois à se nourrir qu'aux burritos, à la pistolero et à chier de petites crottes de lapin dures comme la pierre 2 fois par semaine au mieux, il se réjouit de l'aubaine. Andy leur servit d'énormes steaks saignants et nappés de sauce aux champignons. Ils étaient accompagnés de haricots, de rouleaux qui rappelaient des tacos et de maïs grillé. Eddie tenta de croquer dans un épi et le trouva dur, mais savoureux. Il y avait aussi de la salade de choux et des carottes, confectionnées comme Tian Jafford s'empressa de le leur dire, par sa femme ici présente. On leur offrit ensuite un fabuleux gâteau du nom de nappé aux fraises. Et du café, bien sûr. Eddie eut le sentiment qu'à eux quatre, ils avaient bien dû en boire un gallon. Même Otte eut droit à une goutte. Jake posa devant lui une soucoupe remplie du breuvage noir et fort. Otte le renifla, lâcha un « caf !» puis lapa le tout avec une grande célérité. Ils n'abordèrent pas de sujets graves pendant le repas. On ne mélange pas nourriture et palabres, c'était là l'une de ces petites pépites de sagesse chères à Rallant. Pourtant, Eddie apprit beaucoup de Jaffords et de sa femme, surtout sur la vie quotidienne dans ce que Tian et Zalia appelaient les terres frontalières. Eddie espérait que Susanna, assise près d'Overholzer, et Jake, assis à côté du gamin qu'Eddie surnommait déjà Benny le Kid, en apprenaient autant que lui. Il aurait cru que Rallant se serait placé à côté de Callahan, mais Callahan n'était à côté de personne. Il emporta sa part un peu à l'écart, dit les grâces et mangea seul. Et peu, d'ailleurs. Était-il furieux contre Overholzer pour lui avoir volé la vedette ou solitaire de nature? Difficile à dire en si peu de temps, mais si on lui avait mis un pistolet sur la tempe, Eddie aurait voté pour la seconde solution. Ce qui frappa le plus Eddie, c'est combien cette partie du monde était civilisée. À côté, Lud, avec ses gris et ses ados, faisait penser aux îles cannibales dans une histoire de marin pour enfants. Ces gens avaient des routes, des lois et un système de gouvernement qui rappelait à Eddie les assemblées générales municipales de Nouvelle-Angleterre. Elles se tenaient dans une salle du conseil avec une plume qui semblait tenir lieu de symbole d'autorité. Pour convoquer un conseil, il fallait faire tourner la plume. Si assez de gens la touchaient quand elle passait chez eux, un conseil pouvait se tenir. Dans le cas contraire, le conseil n'avait pas lieu. On envoyait 2 personnes porter la plume et on croyait leur décompte sur parole. Eddie doutait que le système puisse marcher à New York, mais dans un endroit comme celui-ci, c'était, semble-t-il, une bonne façon de faire. Il y avait au moins 70 autres Calas, disséminés en arc de cercle au nord et au sud de Calabrin Sturgis. Calabrin Lockwood, au sud, et Cala Amity, au nord, comptaient aussi des fermes et des ranches, et subissaient aussi les assauts périodiques des loups. Plus au sud, on trouvait Calabrin Booz et Cala Staffle, avec leurs vastes étendues herbeuses, dont Jaffords leur apprit qu'elles étaient aussi victimes des attaques des loups, du moins le croyait-il. Plus au nord, Calasen Pinder et Calasen Shrey étaient constitués de fermes et d'élevages de moutons. « Des fermes de bonne taille, » commenta Tian, « mais elles sont plus petites quand on remonte au nord, hein, tu t'es bien, jusqu'à ce qu'on arrive aux terres de neige, c'est ce qu'on m'a dit, je ne les ai jamais vues moi-même, où on fait un fabuleux fromage. » Au nord, ils portent des chaussures en bois, en tout cas, c'est ce qu'on raconte, dit Zalia à Eddie, l'air un peu nostalgique. Elle-même portait des croque-noirs raflés, appelés bottillons. Les gens des Calas voyageaient peu, mais s'ils le souhaitaient, les routes étaient là et le commerce était florissant. Et puis, il y avait la Wye qu'on appelait aussi Grande Rivière. Elle s'étendait au sud de Calabrin Sturgis jusqu'aux mers méridionales, à ce qu'on disait. Il y avait des calasses minières et des calasses industrielles, où on utilisait la pression vapeur et même s'y fait l'électricité, et même une cala consacrée exclusivement au plaisir, les jeux, les devinettes délirantes et débridées, et aussi, mais à ce stade, Tian sentit sur lui le regard de Zalea, et il s'affaira autour de la marmite, et se resservit une grosse portion de salade confectionnée par sa femme. « Bon, » résuma Eddie en dessinant une courbe dans la poussière. « Ça, ce sont les terres frontalières, les calas, un arc qui va du nord au sud sur... combien, Zalea ? C'est une affaire d'homme, ça. » Puis, voyant que le sien était encore près du feu à inspecter les casseroles, elle se pencha légèrement vers Eddie. « Vous parlez en kilomètres ou en roues ?»« Un peu des deux, mais je m'en sors mieux avec les kilomètres. » Elle hocha la tête. « Sur 3 000 kilomètres, peut-être bien ?» Elle indiqua le nord. « Et le double, par là, en indiquant le sud. » Elle resta ainsi, un doigt pointé dans chaque direction, puis laissa retomber ses bras, joignit les mains sur ses genoux et reprit sa position sage. « Et ces villes, ces calasses, elles s'étendent tout le long ?»« C'est ce qu'on dit, ne vous déplaise, et les marchands vont et viennent. Au nord-ouest d'ici, la grande rivière se divise en deux, on appelle la branche est Devard Titi Wai, la petite Wai si vous préférez. Bien sûr, il y a plus de trafic venant du nord, parce que le fleuve coule du nord au sud, voyez-vous. Je vois. Et vers l'est ? Elle baissa les yeux. Tonne foudre, dit-elle d'une voix à peine audible. Personne n'y va. Pourquoi ? Il fait noir là-bas, répondit-elle sans lever les yeux de ses mains. Puis elle leva un bras. Et cette fois-ci, elle le pointa dans la direction d'où Roland et ses amis étaient arrivés, vers l'entre-deux-mondes. « Là-bas, » dit-elle, « le monde touche à sa fin. C'est ce qu'on dit. Et là-bas, » elle indiqua l'est et leva son visage vers Eddie, « là-bas, à Tonne Foudre, c'est déjà la fin. Nous sommes pris au milieu, nous qui voulons seulement vivre notre vie en paix. » Et vous pensez que c'est possible ? « Non. » Et Eddie fit qu'elle pleurait. 2. Peu de temps après, Eddie se fit excuser et se rendit dans un bouquet d'arbres pour quelques instants d'intimité. Lorsqu'il se releva, cherchant de la main des feuilles pour s'essuyer, une voix s'adressa à lui quasiment dans son oreille. « Pas celle-ci, Sai. Ne vous déplaise. Ce sont des rafales empoisonnées. Si vous vous essuyez avec, vous verrez les démangeaisons. » Eddie bondit en l'air et fit volte-face, attrapant la ceinture de son jean d'une main et tendant l'autre vers le ceinturon de Roland qui pendait à la branche d'un arbre. Puis, il vit qui, ou quoi, avait parlé, et se détendit quelque peu. « Andy, c'est pas très cool de se planquer comme ça derrière les gens quand ils sont en train de couler à bronze. » Puis pointant le doigt vers un petit taillis de buisson bas et vert. « Et cela, qu'est-ce que je risque d'horrible si je m'essuie avec cela ?» Il y eut une pause et des cliquetis. « Quoi ?» demanda Eddie. « Je fais quelque chose de mal ?»« Non, » répondit Andy. « Je traite tes informations. Voilà tout, Sai. Cool, mot inconnu. Se planquer... « Ce n'est pas ce que j'ai fait, je suis arrivé en marchant, si cela vous sied. Couler un bronze, argot désignant l'excrétion de... »« Ouais, si Eddie, c'est bien ça. »« Mais écoute voir, si tu t'es pas planqué, Andy, comment ça se fait que je ne t'ai pas entendu venir ? Je veux dire, c'est les sous-bois ici, n'importe qui ferait du bruit en marchant dans les sous-bois. »« Je ne suis pas n'importe qui, Sai, » fit Andy. Et Eddie lui trouva dans la voix une pointe de suffisance. Un type, disons. Comment un grand type comme toi peut être aussi silencieux ? Question de programmation. Au fait, ces feuilles seront parfaites. Eddie roula des yeux ronds puis s'empara d'une poignée de feuilles.
« Ah ouais, la programmation, bien sûr. Comment n'avais-je pas deviné ? Grand merci, ça, et que tes jours soient longs. Va chier et rendez-vous au paradis. »
« Le paradis, » répéta Andy. « Lieu où l'on va après la mort, sorte de havre de paix. Selon le vieux, ceux qui vont au paradis sont assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant pour les siècles des siècles. »
« Ah ouais ? Et qui est assis à sa gauche ? Toutes les vendeuses Tupperware ?»«
Je ne sais pas, ça, et Tupperware est un mot inconnu pour moi. Que diriez-vous d'entendre votre horoscope ?»«
Pourquoi pas ?» fit Eddie.
Il reprit le chemin du campement, guidé par les rires des garçons et les aboiements du bafouilleux. Du haut de ses 2 mètres, Andy marchait près de lui, étincelant même sous ce ciel nuageux, et ne faisant pas un bruit, ce qui donnait la chair de poule.
Quelle est votre date de naissance, Sai?
Eddie pensa qu'il pouvait répondre à celle-là.
Je suis de la lune du bouc, dit-il avant de s'en rappeler un peu plus. Bouc à barbe. La neige de l'hiver est lourde de malheur, l'enfant de l'hiver est fort et sauvage, dit Andy.
Oui, c'était bien de la suffisance dans sa voix, pas de doute.
« Fort et sauvage, c'est tout moi, commenta Eddie.
Pas pris un bain digne de ce nom depuis plus d'un mois, t'as plutôt intérêt à croire que je suis fort et sauvage. »«
Qu'est-ce que tu veux d'autre, mon vieil Andy ?
Tu veux voir la paume de ma main ?
Ce ne sera pas nécessaire, ça, Eddie. »
Le robot avait un air indiscutablement ravi, et Eddie pensa. « Me voici, je réponds la joie partout où je passe. » Même les robots m'aiment, c'est mon cas.
C'est la pleine terre, disons tous, grand merci, la lune est rouge, celle qu'on appelle la lune chasseresse dans l'entre-deux-mondes qui fut.
Vous allez voyager, dit, voyager loin, vous et vos amis. Cette nuit même, vous retournerez à Cala, New York. Vous allez rencontrer une dame d'ombre. Vous, je veux en savoir plus au sujet de ce voyage à New York, fit Eddie, s'immobilisant subitement juste en face du campement, assez près pour voir les mouvements autour du feu.
« Pas de blague, Andy. »« Vous irez... Va, Dash !» ça, Eddie. « Vous et vos amis, vous devrez faire attention. »« Quand vous entendrez le Kamen, le carillon, intuitez bien, vous devrez tous vous concentrer les uns sur les autres pour ne pas vous perdre. »
« Et comment tu sais ces trucs ?» demanda Eddie.
« Question de programmation, c'était votre horoscope, Sai.
C'est gratuit. » Puis, avec ce qui parut à Eddie le comble de la démence, il poursuivit.
« Sai Callahan, le vieux, vous intuitez, il dit que je n'ai pas d'autorisation pour dire l'avenir. Alors il ne faut jamais faire payer. »
« Sai Callahan dit vrai ?» dit Eddie, qui ajouta alors qu'Andy repartait en direction du camp.
« Mais reste dans une minute, Andy. Si cela te sied, je te prie. »
La rapidité avec laquelle tout ça sonnait juste avait quelque chose d'affolant. Andy s'arrêta bien volontiers et se tourna vers Eddie, ses yeux bleus scintillants. Eddie avait à peu près 1000 questions à lui poser sur le Vahadash, mais il y avait un sujet qui l'intriguait encore plus.
« Tu es au courant pour ces loups ?»«
Ah oui, c'est moi qui l'ai dit à Saïtian, il était furax. » À nouveau, Eddie crut entendre une certaine suffisance dans la voix d'Andy, mais ce n'était probablement qu'une illusion, n'est-ce pas ? Un robot, même un robot survivant des temps anciens, ne pouvait se réjouir des désagréments subis par les humains.
« Si ?»« Il ne t'a pas fallu longtemps pour oublier le mono, pas vrai, chérie ?»
résonna la voix de Susanna dans son esprit, suivie par celle de Jake.
Blaine et Penn,
puis juste après la sienne. Si tu tentais à traiter ce type comme un vulgaire bout de métal qui dit l'avenir dans une fête foraine, et dis, mon vieux, tu n'auras que ce que tu mérites.
Parle-moi des loups, dit Eddie.
Que voulez-vous savoir, ça, Eddie ?
D'où ils viennent, pour commencer ? L'endroit où ils se sentent chez eux, où ils peuvent mettre pied à terre et péter un bon coup si ça les chante. Pour qui ils travaillent, pourquoi ils prennent ces enfants, et pourquoi ceux qu'ils emmènent reviennent bousillés. Puis une autre question lui vint subitement à l'esprit, la plus évidente peut-être. « Et aussi, comment tu sais qu'ils vont venir ?» Nouveau cliquetis à l'intérieur d'un nez. Beaucoup de cliquetis cette fois-ci, une pleine minute de cliquetis. Quand Andy reprit la parole, sa voix avait changé. Elle fit penser à Eddie, à celle de l'agent Bosconi dans son quartier. Brooklyn Avenue, c'était le terrain de chasse de Bosco Bob. Si vous vous contentiez de croiser gentiment dans la rue pendant sa ronde, faisant tournoyer sa matraque, Bosco vous parlait comme un être humain à un autre être humain. « Comment ça va, Eddie? Et ta mère? Comment elle va ces jours-ci? Et ton bon Ariane Frangin? Quand est-ce que tu passes pro? Ok, on se voit à la salle de sport. T'attires pas d'ennui. Bonne journée. » Mais il suffisait qu'il ait l'impression que vous ayez fait quelque chose de pas clair pour que Bosco Bob se transforme en bulldozer. Cet agent Bosconi-là ne souriait pas. Et derrière ses lunettes, ses yeux ressemblaient à deux disques de verglas en plein hiver. Et, quelle coïncidence, c'était justement la période du bouc, de ce côté-ci du grand je ne sais quoi. Bosco Bob n'avait jamais levé la main sur Eddie, mais une ou deux fois, dont l'une juste après l'incendie de l'épicerie de Wokim par des gamins, il avait été certain que cet enfoiré en bleu l'aurait volontiers cogné si Eddie s'était montré assez stupide pour jouer au plus malin. Sans aller jusqu'à parler de schizophrénie, du moins pas du genre d'état ou d'état, on n'en était pas loin. L'agent Bosconi avait deux visages. Le premier était un chic type, le second était un flic. Quand Andy reprit la parole, il n'avait plus la voix de cet oncle bien intentionné mais stupide, celui du genre à croire dur comme fer qu'Elvis était encore vivant et qu'il habitait à Buenos Aires. Cet Andy-là parlait sans aucune émotion, comme s'il était mort. Comme un vrai robot, autrement dit. Quel est votre mot de passe, Saïdi? Hein? Mot de passe. Vous avez 10 secondes. 9, 8, 7. Eddie se remémora les films d'espionnage qu'il avait vus. Tu veux dire qu'il faut que je trouve un truc du genre les roses sont éclatantes au Caire et que toi, tu répondras seulement dans le jardin de Madame Wilson et alors moi, je dirais mot de passe incorrect, ça est dit. 2, 1, 0. Dans l'intérieur d'Andy monta un martèlement sourd qu'Eddie trouva étonnamment déplaisant. On aurait dit la lame affûtée d'un couperet tranchant la viande et allant se planter dans la planche à découper en dessous. Pour la première fois, il se surprit à penser aux grands anciens, ceux qui avaient probablement construit Andy, ou peut-être les ancêtres même des anciens, appelons-les les véritables anciens, qui pouvaient le dire. Pas des gens qu'Eddie aurait rêvé de rencontrer s'il se fiait aux vestiges qu'il avait vus à Lod. « Vous avez droit à un deuxième essai, » fit la voix froide. La voix rappelait celle qui avait demandé à Eddie s'il voulait entendre son horoscope, mais ce n'était qu'une faible ressemblance, rien de plus. « Souhaitez-vous retenter votre chance, Eddie de New York ?» Eddie réfléchit très vite. « Non, ça va. C'est une info confidentielle, pas vrai ?» Encore des cliquetis, puis... « Confidentiel, écrit ou composé dans le secret, information dont l'accès est limité, par exemple dans un document ou un Q-disque. Accès limité aux personnes autorisées. Ces personnes sont identifiées par le mot de passe. » Il y eut une autre pause pendant laquelle Andy parut réfléchir, puis il conclut. « Oui, Eddie, cette information est confidentielle. Pourquoi ?» Eddie n'attendait pas de réponse, pourtant Andy lui en donna une. « Directive numéro 19. » Eddie lui donna une bourrade sur son flanc de métal. « Mon ami, voilà qui ne me surprend pas du tout, la bonne vieille directive numéro 19. »« Souhaitez-vous entendre votre horoscope détaillé, Eddie Sy ?»« Une autre fois, peut-être. »« Et pourquoi pas une petite chanson, par exemple, le jus de Jimmy que j'ai bu hier soir. Les paroles sont très amusantes. » Les notes aiguës d'un sifflet montèrent du diaphragme d'Andy. Eddie, qui trouvait plutôt alarmante cette idée des paroles amusantes, accéléra le pas.
Pourquoi on n'y reviendrait pas un peu plus tard? Parce que pour l'instant, j'ai surtout besoin d'une autre tasse de café. Grand bien vous en fasse, Sai, dit Andy. Eddie trouva que c'était la voix de quelqu'un qui se sentait délaissé, comme Bosco Bob quand il lui avait annoncé qu'il serait sans doute trop pris pour jouer en professionnel l'été suivant.
3. Roland était assis sur un affleurement rocheux, buvant lui-même une tasse de café. Il écouta Eddie sans mot dire, et ne manifesta aucune émotion, si ce n'est un léger haussement de sourcils, à la mention de la fameuse directive numéro 19. De l'autre côté de la clairière, Slightman le jeune avait sorti une sorte de pipe qui faisait des bulles incroyablement résistantes. Otto lui courait après. Il réussit à en faire exploser quelques-unes avec ses dents, puis finit par comprendre ce que Slightman le jeune attendait de lui, qu'il les regroupe en une fragile petite pile de lumière. Cette pyramide de bulles rappela à Eddie l'arc-en-ciel du magicien, ses redoutables bulles de verre. Et Callahan en possédait-il réellement une, la pire du lot? Derrière les garçons, au bord de la clairière, Andy se tenait debout, ses bras d'argent croisés sur son buste d'acier. Eddie pensa qu'il attendait de pouvoir nettoyer les restes du repas qu'il avait transporté jusqu'ici et préparé pour eux. Le parfait serviteur. Il cuisine, il nettoie, il vous informe que vous allez rencontrer une dame d'ombre, mais n'espérez pas qu'il violera la directive numéro 19. Pas sans le mot de passe, en tout cas.
Venez par ici, les amis, vous voulez bien ?
Appela Roland en élevant légèrement la voix. Il est temps de faire un peu palabre. Ça sera pas long. Ce qui n'est pas plus mal, au moins pour nous, car nous avons déjà palabré avant l'arrivée de Sai Callahan auprès de nous, et qu'au bout d'un temps, trop de palabre rend malade. Ils s'approchèrent et s'assirent près de lui comme des enfants obéissants, ceux de la Cala et ceux venus de beaucoup plus loin et qui n'avaient sans doute pas encore parcouru la moitié du chemin. Avant tout, je souhaite entendre ce que vous savez de ces loups. Eddie m'a appris qu'Andy ne désire pas forcément révéler d'où lui vient la connaissance du sujet.
« Vous dites vrai, » grogna Slightman l'aîné.
« Ceux qui l'ont fabriqué ou ceux qui sont venus après l'ont quasiment bâillonné sur cette question, bien qu'ils nous préviennent toujours de leur venue. Sur la plupart des autres sujets, il est souvent impossible de le faire taire. »
Roland regarda en direction du gros fermier de la Cala.
« Vous voulez bien nous mettre sur la piste, Sai Overholzer ?»
Tian Jafford eut l'air déçu qu'on ne l'ait pas sollicité. Sa femme avait l'air déçue pour lui.
Slightman l'aîné hocha la tête comme s'il s'était attendu au choix de Roland. Overholzer lui-même ne se gonfla pas d'orgueil comme Eddie l'aurait cru. Il se contenta de baisser les yeux sur ses jambes croisées et s'est bottillonné égratigné pendant environ 30 secondes, tout en se frottant la joue et en réfléchissant. La clairière était tellement silencieuse qu'Eddie entendait parfaitement le frottement de la paume du fermier contre sa barbe de 2 ou 3 jours. Il finit par pousser un soupir, hocha la tête, et releva les yeux vers Roland.
« Grand merci à vous. Vous n'êtes pas comme je le croyais, je dois bien avouer. Ni vous. « Ni votre tête. » Overholzer se tourna vers Tian.
« Tu as eu raison de nous traîner ici, Tian Jafford. C'est une réunion qu'il fallait avoir. Grand merci à toi. »«
Ce n'est pas moi qui vous ai amené ici, » fit Jafford. « C'est le vieux. »
Overholzer hocha la tête en direction de Callahan. Callahan lui rendit son hochement de tête, puis dessina une croix dans l'air avec sa main portant une cicatrice, comme pour dire que ce n'était pas lui non plus, mais Dieu qui était responsable de leur présence ici. C'était peut-être le cas, mais dès qu'il s'agissait de tirer les marrons du feu pour chaque dollar qu'il parierait sur Dieu ou sur l'homme Jésus, ses pistoleros célestes, il en miserait 2 sur Roland de Gilead. Roland, qui attendait, le visage exprimant le plus grand calme et la politesse la plus parfaite. Overholzer finit par prendre la parole. Il parla pendant 15 minutes, avec lenteur, mais sans jamais s'éloigner du sujet. Pour commencer, il y avait la question des jumeaux, Les habitants de la Cala savaient bien que les naissances doubles étaient plutôt une exception que la règle, en d'autres lieux et en d'autres temps, mais dans leur ère du grand croissant, c'étaient les singletons, comme le petit Aaron des Jaffords, qui faisaient figure de rareté, de grande rareté. Et environ 120 ans auparavant, ou peut-être 150, avec le temps de chez eux impossible de dater les événements avec précision, les loups avaient commencé leur rafle. Ils ne venaient pas exactement une fois par génération, ce qui aurait voulu dire tous les 20 ans à peu près. L'intervalle était plus long. Pourtant, pas beaucoup plus. À un moment, Eddie songea à demander à Overholser et à Slightman comment les grands anciens avaient pu faire taire Andy concernant les loups, si les loups avaient commencé leur rafle moins de 200 ans auparavant. Mais il ne prit pas cette peine. Poser des questions sans réponse était une perte de temps, aurait dit Rowland. Pourtant, c'était intéressant, n'est-ce pas? Intéressant de se demander quand quelqu'un ou quelque chose avait programmé en dernier Andy le messager. Nombreuses autres fonctions. Et pourquoi? Les enfants, poursuivit Overholser, un de chaque père âgé de 3 à 14 ans environ, était emmené à l'est, en terre de Tonnefoudre. Eddie remarqua que pendant toute cette partie du récit, Slightman l'aîné avait passé le bras autour des épaules de son fils. Il restait là-bas pendant un temps relativement court, 4 semaines, peut-être bien 8. Puis la plupart d'entre eux revenaient. Pour ceux qui ne revenaient pas, on supposait qu'ils étaient morts dans la Terre des Ténèbres et qu'ils n'avaient pas seulement été décérébrés, mais tués lors du rite mystérieux et maléfique qui s'y déroulait. Ceux qui revenaient étaient devenus, dans le meilleur des cas, des idiots dociles. Un garçon de 5 ans pouvait avoir perdu tout le langage difficilement appris, réduit à babiller et montrer du doigt ce qu'il voulait. D'autres, qui n'avaient plus mis de couche depuis 2 ou 3 ans, étaient contraints d'en porter de nouveau, et ce jusqu'à l'âge de 10 ou même 12 ans. « Mon salaud, tiens, pissolé une fois par semaine au moins, encore aujourd'hui, et on peut être sûr qu'elle se chie aussi dessus une fois par lune !» lança Jaffords. Écoutez-le, approuva sombrement Overholser. Mon propre frère, Welland, en était là jusqu'à sa mort. Et bien sûr, il faut les surveiller plus ou moins tout le temps, parce que s'ils tombent sur un plat qu'ils aiment, ils vont en manger jusqu'à ce qu'ils implosent. Qui surveille ta sœur en ce moment, Tian ? Ma cousine, répondit Zalia avant que Tian pût parler. Hedon et Hedda commencent à donner un coup de main. Ils sont devenus assez grands. Elle s'interrompit, semblant soudain comprendre ce qu'elle disait. Sa bouche se tordit, et elle se tut. Eddie croyait comprendre. Eddon et Hedda étaient en âge de donner un coup de main, oui. L'année prochaine, l'un d'eux le pourrait toujours, mais l'autre. Un enfant enlevé à l'âge de 10 ans revenait parfois avec quelques rudiments de langage, sauvé du naufrage, mais n'irait pas plus loin. Ceux qui partaient plus âgés étaient sans doute les cas les plus tristes, car il semblait qu'ils gardaient une vague conscience de ce qui leur avait été volé. Ceux-là avaient tendance à pleurer beaucoup, ou simplement à se renfermer sur eux-mêmes et à fixer l'est comme s'ils étaient perdus, comme s'ils voyaient là-bas leur pauvre cerveau tournant comme des oiseaux dans le ciel noir. Au fil des années, une 12 d'entre eux s'étaient même suicidés. Callahan se signa une nouvelle fois. Jusqu'à l'âge de 16 ans environ, les crânés demeuraient des enfants, aussi bien dans leur silhouette que dans leur comportement ou leur langage. Puis, subitement, la plupart d'entre eux poussaient d'un seul coup pour atteindre la taille de jeunes géants. « On n'a aucune idée de ce que c'est si on ne l'a pas vu et subi soi-même, » dit Tian, en fixant les cendres du feu. « On n'a aucune idée de la douleur qu'ils ressentent. » Vous voyez un bébé qui fait ses dents, vous voyez comme il hurle. Oui, fit Susanna. Tian hocha la tête. C'est comme si tout leur corps faisait ses dents. Vous intuitez?
Écoutez-le, dit Overholser. Pendant 16 ou 18 mois, tout ce que mon frère a su faire, c'est dormir et manger et pleurer et grandir. Je me rappelle même qu'il pleurait en dormant. Je sortais de mon lit pour aller le voir, et il y avait ce chuchotement qui montait de sa poitrine, de ses jambes et de sa tête.
C'était le bruit de ces eaux qui poussaient pendant la nuit, vous imaginez ? Eddie essaya effectivement de s'imaginer une horreur pareille. On entend des histoires au sujet des géants, bien sûr, mais jusqu'à présent, il n'avait jamais considéré ce que ça pouvait être de devenir un géant, comme si tout leur corps faisait ses dents, pensa Eddie, et il frissonna. Un an et demi, ça n'a pas pris plus que ça, mais je me demande si ça leur a paru long, à eux, avec leur notion du temps qui devait ressembler à celle d'un oiseau ou d'un insecte.
Interminable, dit Susanna, le visage très pâle, l'air maladif. Ça a dû leur paraître interminable.
Ce chuchotement dans la nuit pendant que leurs os poussent, poursuivit Oberholzer, et les maux de tête insupportables quand leur crâne grandit.
Une fois, Salman a hurlé pendant 9 jours, sans interruption, dit Zalia d'une voix impassible.
Mais Eddie vit l'horreur dans ses yeux et la vit clairement. Ses pommettes poussaient, on le voyait à l'œil nu. Son front se bombait, et en s'approchant assez près, on entendait le crâne craquer. On aurait dit une branche qui cède sous le poids de la glace.
Pendant 9 jours, il a hurlé 9. Le matin, à midi, au milieu de la nuit, des hurlements, tout le temps. L'eau qui jaillit des yeux. On a prié tous les dieux de la création qu'ils se cassent la voix ou même qu'ils deviennent muets tout d'un coup. Mais ça ne s'est pas produit. Grand merci.
On aurait eu une arme. Je pense qu'on l'aurait abattu sur sa paillasse rien que pour le soulager.
Quand ça s'est finalement terminé, mon bon vieux pas était à 2 doigts de lui trancher la gorge. Ses os ont continué à pousser pendant un temps. Son squelette, vous voyez, mais le pire, c'était sa tête. Quand c'est arrivé. Merci à Dieu et aussi à l'homme Jésus. »
Elle hocha la tête en direction de Callahan. Il fit de même et leva la main vers elle, la gardant suspendue, ouverte, pendant quelques instants. Zalia se tourna de nouveau vers Roland et ses amis.
« Maintenant j'en ai 5 à moi, » dit-elle. « Aaron n'a rien à craindre que les dieux entendent ma joie et mes remerciements, mais Hedon et Hedda ont 10 ans, c'est l'âge le pire. » Lyman et Lia n'ont que 5 ans, mais ça suffit largement. On en a vu partir des plus...
Elle enfouit son visage dans ses mains et se tut.